Merci Tiffaine et bon week-end. Deux invités, l'Amérique, la Chine, le Japon, des coyotes, des cabanes, des poèmes, du bouddhisme zen et des rivières, avec Brice Mathieu-San, traducteur de Jim Harrison, Poésie comprise, et Christophe Roncato-Tunsi, qui traduit les essais du poète, penseur et écologiste américain Gary Snyder.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
But I used to tell young writers, it's absurd. They would say, how can I be a writer? I say, eat a lot of garlic and drink a lot of red wine.
Dans le temps, lorsque des jeunes venaient me voir en me disant comment je peux faire pour être écrivain, je leur disais, il faut manger de l'ail et boire du vin rouge en quantité.
See, it's a zen answer because the question is impossible, you know?
C'est une réponse en forme de koan zen, parce que la question est elle-même absurde.
I can't talk to young people who want to be writers unless they're giving their entire life to it, you know.
Je ne peux pas parler à de jeunes écrivains à moins qu'ils ne décident de consacrer leur vie entière à l'écriture.
If it's a hobby, they're wasting my time.
Si ce n'est qu'un passe-temps pour eux, ils me font perdre mon temps.
Brice Mathieu-San, Christophe Roncato-Tunsi, bonjour et bienvenue à
bonjour.
Tous les deux.
Bonjour.
Au programme donc aujourd'hui, Jim Harrison, dont on vient d'entendre la voix, et Gary Snyder, deux figures nouées au moins par l'esprit sauvage, hein, deux aristocrates sauvages. Titriez-vous Brice Mathieu-San, qui avait traduit une longue conversation entre eux en 2011. Christophe Roncato-Tunsi, vous traduisez quant à vous « Le sens des lieux ». Éthique, esthétique et bassin versant aux éditions Wild Project, soit 40 ans d'essais signés donc, de l'américain Gary Snyder. Un petit mot peut-être juste sur cette affaire de bassin versant qui m'a beaucoup intriguée, qui est à la fois une énigme, j'imagine, intellectuelle et un obstacle de traducteur.
Oui, exactement. Un bassin versant, c'est un terme géographique qui désigne une unité territoriale à l'intérieur de laquelle les eaux convergent. Donc ça, c'est un terme technique, mais c'est aussi en langue anglaise, un tournant ou un moment charnière. Et donc, fatalement, en optant pour bassin versant, on perd la moitié du sens du terme watershed, mais on le récupère dans le texte et dans la traduction.
On va y revenir, bien sûr. Gary Snyder, donc le type le plus fou et le plus intelligent que nous ayons jamais rencontré, disait de lui Kerouac. C'est ce que précise, en tout cas, l'éditeur qui en appelle à, disons, à l'oral de la Beat Generation en France, pour transmettre enfin cette figure immense hein, de l'écologie, de la poésie et du bouddhisme zen. Et comme ça tombe bien, Brice Mathieu-San, avant Pynchon, Fante, Bukowski, Kerouac, Miller et les autres, c'est avec deux petits recueils de Snyder que vous faites quasiment vos premières armes à la fin des années 70, avant Jim Harrison, hein, dont vous avez depuis Faux Soleil traduit tout ou presque, hein, je ne sais pas s'il vous manque quelque chose, roman, nouvelle, préface, poème, dont le dernier recueil Une heure de jour en moins, rassemblant une sélection de 65 à 2010, paraît en poche aux éditions J'ai lu. ...1972, hein, ça ne nous rajeunit pas, disiez-vous, Brice Mathieu-San. Un an après l'apparition de Wolf, hein, le premier roman d'Harrison, Neil Young, BO des années de défonce, un peu quand même, de poésie, beaucoup, de pêche, de Jim Harrison, mais on aurait pu tout aussi bien choisir Berlioz, Schubert aussi, ou Bach, ou Stravinsky, ou Cesaria Evora, ou Lou Reed, me disiez-vous, Brice Mathieu-San. Pink Floyd, enfin ça viendra peut-être hein, si on a le temps. Plateau de Jim Harrison, donc avec vous, Brice Mathieu-San, qui fut et est toujours, son traducteur depuis 30 ans maintenant. Faux Soleil d'Alva, mais aussi En Marge, son autobiographie parue en 2003 en France, mais aussi sa préface au Walden de Thoreau, dont vous avez proposé une traduction récente, mais aussi un sacré gueuleton, fraîchement paru chez Flammarion, mais aussi et surtout une heure de jour en moins, sélection de poèmes de plein champ en 1965, hein, toute première publication de Jim Harrison, au tout dernier poème paru, en tout cas de 2010, et j'imagine qu'il en reste encore beaucoup à traduire. Hein. Il va donc être question de poésie et de poète, mais pour excuser l'impression de le détacher du reste de son œuvre, et je m'en garderai bien, voici ce qu'il disait de ce supposé passage de la poésie au roman au début des années 70. On est en 2006 sur France Culture, au micro de Clémence Boulouk, traduction de Xavier Combes.
It's all mixed. I don't separate. I have a new book of poems coming out next month. But I never have separated them because everything started at once, you know. Everything started at the same time, so I never think too much about genres. When I feel like writing poems, I write poems, and then, you know, the next day I'm writing fiction again, so I don't separate them, really. It's whatever the impulse is.
En réalité, je pense que tout est imbriqué. Le mois prochain va sortir un recueil de poésie que j'ai écrite, mais moi, je ne fais pas vraiment la distinction entre les deux, parce que tout, pour moi, a commencé en même temps. Je n'aime pas trop cette distinction entre les genres. En ce qui me concerne, lorsque j'ai envie d'écrire des poèmes, je le fais, et le jour suivant, je peux me remettre à écrire de la fiction.
Est-ce qu'il faut vraiment croire Jim Harrison lorsqu'il dit qu'il ne fait aucune distinction entre les deux?
Oui, c'est une question compliquée, mais en même temps, il faut lui faire confiance quand il raconte que... c'est selon l'impulsion du moment, et que quand il a envie d'écrire un poème, il écrit un poème, et puis après il retourne à la fiction. Moi, ce que je vois, c'est qu'en tant que traducteur, les problèmes de traduction sont à peu près les mêmes quand on traduit sa poésie ou quand on traduit sa fiction.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que il y a un principe de disjonction ou de saut très rapide d'un sujet à un autre. Et en poésie, c'est plutôt des sensations ou des souvenirs ou des notations juxtaposées. Et dans sa prose, c'est souvent comme ça. Alors évidemment, dans la prose, il y a un fil conducteur, il y a les personnages, il y a les actions, etc. Tout ça est parfaitement bien fait. Mais en même temps, comme il y a beaucoup de monologues intérieurs ou de flux de conscience ou de choses comme ça, de pensées qui traversent les personnages, ça saute très souvent d'une chose à une autre. Et on retrouve cette même disjonction dans la poésie. Voilà. Donc il faut pas louper les grands sauts de marche dans un précipice ou du haut d'une falaise et l'endroit où on atterrit, il faut pas se tromper sur faut atterrir du bon pied quoi. Sans ça, on se casse la figure. Bon.
C'est vrai qu'on retrouve évidemment des motifs saillants dans les deux exercices. Pour ce qui est de la poésie, Harrison va alterner toutes sortes de formes, effectivement, hein, de longs poèmes fleuves, des tout petits formats ramassés au bord de la vignette, hein, qui lorgnent notamment du côté de la tradition japonaise. Et je me demandais ce que pouvait la poésie, malgré tout, que le roman ne pouvait pas pour lui. Parce que vous parliez, lui parle de moments ou d'impulsions. Est-ce qu'il y a quand même un état favorable à la poésie?
C'est très intime. Il y a même des jours où je me dis, il a écrit ses fictions pour vivre. Et il a écrit sa poésie parce que c'était vraiment ce qui lui tenait à cœur. Et puis d'autres jours, je me dis que non, c'est un point de vue erroné. Finalement, il est aussi engagé dans la prose, dans la pratique de l'écriture de fiction. Mais là encore avec une forme particulière qui est la forme de la novella. La forme de la novella, c'est quelque chose qui n'existe pas en français. C'est intermédiaire entre la nouvelle et le roman. Donc c'est des nouvelles qui font 100, 120 pages. Et c'est quelque chose qui a été marquant pour lui à travers Légendes d'automne. Donc le livre qui s'appelle Légendes d'automne contient 3 novellas, dont la novella éponyme, qui a donné lieu à un film dont on ne va pas parler, j'espère. Bon. Et donc il y a 3 novellas et qu'il a parfaitement ciselées et qui correspondent à une longueur d'écriture qui est exactement son propos. Et c'est quelque chose, cette forme de publier des livres ou contenant 3 novellas, qu'il a repris régulièrement pendant 30 ans, avec des thématiques totalement différentes, mais souvent avec des résonances secrètes entre les novellas qu'il publiait. Ça lui a permis, par exemple, de développer le personnage de Chien Brun, qui est un personnage totalement asocial, qui vit très très près de la nature, mais qui est une espèce d'escroc, et qui renvoie là aussi au coyote de la de la tradition des Indiennes, hein, on est près du trickster, hein, on est tout près de quelqu'un qui n'arrête pas de jouer des tours dans le dos des gens et qui finalement réussit à vivre d'expédients, mais en menant une vie absolument satisfaisante. Bon. Et d'autres jours, je me dis que non, c'est peut-être plutôt la fiction qui l'a emporté, que c'est pas la poésie, que il a donné le meilleur de lui-même dans un certain nombre de romans et dans cette forme de la novella, et puis que la poésie vient peut-être derrière comme une activité qui lui a toujours été chère, qu'il a toujours pratiquée, mais qui peut-être n'était pas l'essentiel. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même un grand souvenir d'une lecture qui pour Jim Harrison a été très marquante. C'est la lecture de Walden. Moi, il me disait souvent, c'est mon livre de chevet. Donc, quand moi, j'ai retraduit Walden pour Le mot et le reste à Marseille, j'ai tout de suite envoyé un mail à Jim en lui proposant d'écrire la préface. Et il a répondu affirmativement tout de suite, et il a envoyé une préface gratuitement, en disant simplement à l'éditeur, quand je viendrai à Marseille, que l'éditeur m'offre une bouillabaisse sur le port et ça ira. Et il n'est jamais revenu à Marseille, donc il n'a jamais eu la bouillabaisse.
Ah, j'allais vous demander bon, si voilà, elle était bonne.
C'est dommage. Ouais. Mais... Donc je crois que cette pratique du jeu, on connaît l'anecdote de Walden, c'est-à-dire que l'éditeur américain de Thoreau, au bout d'un moment, a manqué de caractère de plomb, où il y avait I, le I qui dit jeu. Il y a tellement de jeux dans le Walden que l'éditeur, l'imprimeur a manqué de plomb pour écrire jeu. Donc il a été obligé d'en chercher ailleurs, d'en retrouver ailleurs. Donc c'est vraiment un livre qui est écrit au jeu, à un point absolument considérable. Et peut-être que Jim a retrouvé cette manière de filtrer toutes les sensations ou de filtrer le monde à travers lui-même dans sa poésie.
Alors est-ce que vous voulez bien, Brice Mathieusson, nous en faire lecture, s'il vous plaît ?
Alors le poème s'intitule... Et c'est un de ses premiers poèmes. Hein. Brouillon pour un formulaire de demande d'emploi. Mon œil gauche, aveugle, cavale tel un moineau laiteux dans son orbite. Mon gros nez ne palpite jamais de colère. Mes incisives saillent, mais pas de lubricité. J'ai sucé mon pouce jusqu'à 12 ans. Ô ma jeunesse heureuse, je n'ai jamais souffert de la solitude, même si mes amis m'appelaient « œil de cochon » et si les profs me trouvaient timbré. Quand je me blessais, ma psyché restait intacte. Je suis tombé de cheval, une fois d'une vache, mais jamais d'un cochon. Un voisin a perdu sa main à cause d'une truie. Mais je connaissais la peur. Le marchand Dieu, sa valise bourrée de babioles louches, serties de velours noir, horreur rutilante... Le grand sabot dressé d'une jument belge, un nid de faux serpents corail près de l'abreuvoir, les clôtures électriques, les chiens de mon oncle, le bras articulé d'un puits de pétrole, la croupe vrombissante d'une moissonneuse batteuse au soleil. De mes ancêtres suédois, j'ai sans doute hérité l'amour des forêts pluvieuses, des tonnelets de harengs et du whisky sec. Je me rappelle de longues soirées de pinocle, la bosse de Redman... Le Redman, c'est la chic. La bosse de Redman dans la joue de mon grand-père. Le tapis sentait le fumier et le pétrole. Il riait fort et ne se parlait pas durant des jours. Mais de l'autre côté, des Mennonites allemands, leurs prières enfumées et leurs filles porcines, j'ai reçu l'intolérance et une absurde diligence. En 51, lors d'un revival, j'ai été sauvé. J'ai prié des heures... sur une grille de chauffage glacée, et me suis réveillé infirme. Baptisé par immersion dans le réservoir de Williamstown, la rouille de l'eau m'a piqué les yeux. J'ai renoncé au vieux truc de la chair, mais pas longtemps. Un soir, près d'un étang, de ses cheveux blonds, elle m'a séché les pieds. Oh, événement réel, statistique mortelle, traverse ces vers. J'aime toujours Jubal, mais plein Agar. Le soi est bien le sacrement premier qui n'aime pas la détresse. Et la corruption du temps présent est perdue. Je me bats pour une arrogance lunaire. La lumière macère, la lampe contamine. Je crie « de la chaleur, encore de la chaleur ».
Merci beaucoup.
Merlicht.
Merlicht, oui. Un extrait de Plein Chant, qui est donc ce premier recueil paru en 65, que vous avez donc traduit. Qu'est-ce qui s'annonce déjà dans ce recueil-là, ce recueil de tout jeune homme, hein, qui va recevoir d'ailleurs un plutôt bon accueil, hein. Qui sont les poètes qui sont posés sur son épaule à ce moment-là, dans les années 60?
Oh, mais il a lu beaucoup de choses, hein. Et il a beaucoup lu de la poésie française. Il adorait, il y avait deux poètes qui citaient, trois, qui citaient tout le temps, c'était Apollinaire.
Comme les artistes de la Beat Generation aussi, qui ont eu recours beaucoup.
René Char.
Plus étonnant.
Il adorait René Char, L'ancrage dans la terre. Et Rimbaud. Voilà, Rimbaud, le créer une nouvelle langue, le dérèglement, évidemment. Et puis, la vie aventureuse. Mais en même temps, il connaissait très très bien la poésie américaine. Il aimait pas Ezra Pound, en tout cas, il n'en parlait jamais. Contrairement à Gary Snyder, qui, à mon avis, est, Ezra Pound est une des influences essentielles dans le brassage des cultures, non? On en parlera, ouais. William Carlos Williams, il adorait. Il aimait beaucoup ça.
Gary Snyder aussi.
Et Walt Whitman, qui était quand même son grand héros, comme pour tous les poètes américains. Mais je pense que dans sa manière autobiographique de concevoir la poésie, il y avait des expériences très très marquantes de sa vie, c'est-à-dire la blessure et le deuil, la souffrance et la consolation dans la nature. La possibilité qu'offrait la nature d'être un lieu de consolation qui peut résonner chez les romantiques français ou anglais de manière forte. Hein. Alors, il aimait beaucoup aussi, j'ai oublié, un poète pour lequel il avait un culte absolument extraordinaire, c'était Keats.
Oui, Keats. Faudrait Keats. Ajouter sans doute aussi Neruda, Lorca,
oui,
Dickinson,
Lorca aussi, bien sûr,
Trackle.
Oui.
Donc effectivement,
oui, beaucoup de choses.
Il étend les bras largement.
Et n'oublions pas la poésie japonaise et la poésie chinoise.
Bien sûr, on va y venir. Oui. Je citais tout ce panthéon-là aussi pour d'autres raisons. C'est que au fond, alors bien sûr, ce sont ses lectures, mais ce sont des lectures qu'on retrouve beaucoup et dans sa poésie et dans ses romans, qu'il glisse beaucoup sous forme de citations, qui est un travail, une manière récurrente chez Jim Harrison. Qu'est-ce que ce goût permanent de la citation pourrait dire de ce que c'est, au fond, que d'écrire pour lui ?
C'était une manière de s'ancrer lui-même, d'habiter son personnage, mais avec une frontière fluctuante entre la création de personnages fictifs et l'autobiographie. Je pense par exemple à son obsession pour un poète qui est Machado. Bon, Machado, et c'était aussi une manière de vivre sa vie comme une fiction. C'est-à-dire, il est parti sur les traces de Machado, en Espagne, et à Collioure, dans le sud de la France, parce qu'il savait très bien que Machado avait une valise de poèmes qu'il avait perdue lorsqu'il a quitté l'Espagne pour rejoindre la France, et il est parti à la recherche de ces poèmes perdus, de cette valise. Il est même descendu dans la soi-disant tombe de Machado à la recherche avec une lampe de mineur, avec des amis qui étaient là autour de la tombe, en étant entré par effraction dans le cimetière, pour essayer de retrouver cette fameuse valise de Machado. Donc il y a un rapport qui n'est pas du tout un rapport universitaire. Il a toujours qualifié l'université de Velvet Zoo, le zoo de velours. Pour lui, l'université, c'est ça. Et il opposait à ce modèle du zoo de velours une sorte de vie vécue qui ne faisait pas tout à fait la différence entre fiction et réalité, mais pas sur le mode de la maladie mentale, mais sur le mode de l'intégration de passions d'écrivains, de poètes, à l'intérieur de sa propre vie. Par exemple, il est allé évidemment sur le lieu où Lorca avait, dans la forêt, où Lorca avait été assassiné par les miliciens de Franco. Mais en même temps, il l'intègre dans ses romans. Donc on retrouve à la fois Jim Harrison dans ses doubles fictifs, mais avec des épisodes qu'il a réellement vécu et qui créent des liens de citation ou de référence, de renvoi à des écrivains qu'il adule, enfin qu'il trouve absolument extraordinaires. Donc il y a des va-et-vient entre à la fois la poésie et la fiction, et l'autobiographie et l'écriture.
Au point que ses propres poèmes en deviennent même fictionnels, parce qu'il a même intégré, je crois que c'est dans Faux Soleil, hein, alors, corrigez-moi si je me trompe, oui. Qu'il intègre Théorie et pratique des rivières, hein, qui est oui, son propre recueil de oui. poèmes, dont il fait un recueil au service de la fiction.
Ça pose un problème de traduction, moi ça m'est arrivé de me poser vraiment des problèmes de traduction. Par exemple, il cite un vers de René Char, je ne suis pas un spécialiste de René Char. Il n'y a pas de référence, c'est en anglais évidemment tout ça. Est-ce que je vais retraduire René Char d'anglais en français en inventant un faux René Char? Ou est-ce qu'au contraire, il va falloir que je recherche?
René Char, hein.
Donc je fais les recherches. Mais j'ai commencé à traduire Jim Harrison à l'époque où il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Hein. On tape une version approximative du vers de René Char, on lance le moteur de recherche et en général on trouve. Mais à l'époque où il n'y avait pas Internet, c'était quand même très très compliqué ça. Enfin, je vous laisse imaginer.
J'imagine. À propos de théorie et pratique des rivières, Brice Mathieu-Sand, voici ce qu'il écrit, hein, Jim Harrison, dans le poème du chalet. J'ai décidé de ne... Alors ça, c'est un recueil publié au début des années 80, à peu près, enfin 84, je crois. Donc voici ce qu'il écrit dans le poème du chalet. J'ai décidé de ne plus rien décider, d'assumer le masque de l'eau, de finir ma vie déguisée en rivière, en tourbillon, de rejoindre la nuit, le flot ample et doux, d'absorber le ciel, d'avaler la chaleur et le froid, la lune et les étoiles, de m'avaler moi-même en un flot incessant. Je voudrais revenir sur ce vers, de finir ma vie déguisée en rivière, le motif de la rivière qui est présent partout, hein, pas seulement pour pêcher évidemment, hein, qui est presque un motif existentiel, hein, c'est une forme, c'est un mouvement, c'est l'idée de la métamorphose aussi. Est-ce que c'est elle au fond qui dirait le mieux sa perception du monde, hein?
Dans le texte que vous venez de lire, ce fragment de poème, il y a aussi un passage moi qui m'a frappé, c'est « je voudrais avaler la lune, le soleil ».
D'avaler la chaleur et le froid.
Avaler la chaleur et le froid, etc. Moi, ça me fait penser au fait que, en effet, il y a cet aspect de rivière qui crée un contraste fort avec l'image qu'on peut avoir de Jim Harrison comme étant un ogre. Mais cette affaire de voracité, c'est quelque chose qui s'applique à tous les. C'est pas simplement c'est pas simplement un sacré gueuleton, c'est pas simplement manger. C'est dévorer la vie. Il y a aussi un autre vers, si je me souviens bien, où il dit « je veux avaler le soleil, la lune et la terre elle-même, et tous les aspects de la vie ». Et c'est quelque chose, c'est un projet de vie qu'il a mis à exécution, c'est-à-dire vivre le plus fort possible tous les moments qui s'offrent à lui. Alors ça peut être dans les rapports avec la nature, mais ça peut être aussi évidemment dans le rapport avec la nourriture, le rapport avec les femmes, le rapport avec l'amitié, le rapport avec la littérature. Il y a une espèce de voracité, de volonté d'être un ogre en permanence dans toutes les activités humaines. Et ça c'est quelque chose qui est... c'est pas du tout être une rivière, ça. Être une rivière...
Qu'est-ce que c'est qu'être une rivière?
Je sais pas, c'est se fondre dans le paysage, c'est devenir le paysage, c'est être aussi souple, aussi sans forme... Sans forme, alors que quand même lui, comme tous les écrivains, son objectif, ça a quand même été beaucoup de donner des formes à des choses qui, sans cela, étaient un peu informes, n'étaient pas tout à fait bien claires et restaient floues. Donc à travers l'écriture, donner des formes stables à quelque chose qui, auparavant, était plutôt de l'ordre d'un flux.
Stable bon. Mais fluide, hein.
Stable mais fluide, stable qui doit passer par la voix, qui doit passer par la lecture, mais qui en même temps est écrit noir sur blanc sur la page. Donc... prend une sorte de pétrification sur la page. Donc, pour moi, l'acte d'écriture, c'est plutôt un acte qui serait à l'inverse de l'acte de, enfin, ou de cet état de fluidité, qu'on associe peut-être plutôt à une féminité qu'à la volonté de rester ou de créer un monument ou de se manifester sous l'angle de la pierre, d'essayer de garder quelque chose fixe, de garder une fixité. Donc c'est plutôt le contraire. Mais c'est vrai que ce thème de la rivière revient, de l'eau en tout cas. Il n'y a pas simplement la théorie et pratique des rivières. Il y a aussi le nageur qui nage et qui passe sa vie à nager et qui rêve de traverser l'océan à la nage. Il y a aussi toute sa pratique de la pêche, c'est-à-dire rester en contemplation devant une rivière. C'est pas simplement le folklore de la pêche à la mouche, mais c'est plutôt une méditation sur le fait de rester immobile devant une rivière qui coule. Voilà. Et je pense qu'il y a en effet l'idée que la nature est un lieu de consolation, est un lieu où on vient dans la solitude s'épancher et essayer de retrouver une stabilité qui a été menacée. l'intégrité physique ou la souffrance, n'importe quel type de souffrance.
I went down with a fishing hole and I sat down with my fishing pole. Some grabbed my hook and they got my bait and they jerked me out in the middle of the lake. Some jumped, I got sunk, baptized on a credit. Fishing down on the muddy bank, I felt a pull and I give a big yank. I hauled out three old rubber boots and a Ford radiator and a Chevrolet coupe. Handed in for national defense. Sitting in a boat with a bucket of beer and I hadn't caught nothing but I didn't much care. I guess I was pretty well satisfied. I had my little lady right by my side. Taking it easy, just a-waiting. Worm been gone off that hook for a couple hours. You go fishing, I'll tell you what to do. You go sit down with the greasy slough.
Woody Guthrie, Talking Fishing Blues. On avait réussi quasiment à parler pendant 20 minutes sans parler de pêche à propos de Jim Harrison. Voici qui est fait, Brice Mathieu-Sand, de Faux Soleil en 87, je crois que vous traduisez, hein, au Sacré Gueuleton, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous aurez donc tout traduit, ou presque, de Jim Harrison, et il y en a encore beaucoup à traduire. Une longue conversation avec lui et avec son écriture. 30 ans de traduction, donc, et je me demandais, Jacques Otet, par exemple, illustre poète et confrère, était de ceux qui pensaient que la trop longue fréquentation d'un auteur et de sa langue n'était pas forcément souhaitable, hein, qu'on serait peut-être moins surpris, moins vigilant, plus en confort dans la langue de celui qu'on traduit. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée pour Jim Harrison, ou cesser de traduire, ça aurait été le trahir?
Moi, j'aimerais d'abord préciser que j'ai traduit peut-être, je crois, 25 livres de Jim Harrison, mais au total, j'ai traduit 200 fictions américaines.
Je n'ai pas traduit que Jim
Harrison.
Vous n'êtes pas la voix d'un seul homme.
Voilà, hein. Donc j'ai traduit beaucoup d'autres auteurs, beaucoup d'autres voix qui n'ont pas grand-chose à voir avec Jim Harrison.
Mais pas de façon aussi exhaustive que lui, peut-être.
Non, c'est le seul auteur. Les configurations de traducteurs sont très variées. Il y a les traducteurs d'un seul auteur, ça existe, hein, oui. Qui n'ont traduit qu'un seul auteur. Il y a des traducteurs qui traduisent absolument tout. Moi, j'ai le sentiment de traduire plutôt majoritairement de la littérature américaine depuis les années 70, depuis 76. Et que cet amour de la littérature américaine, elle vient de la Beat Generation, à l'origine. Et puis qu'elle s'est très diversifiée. Enfin, il n'y a pas eu de watershed, il n'y a pas eu de rupture comme ça, où je me suis dit j'arrête tout et je passe à un autre bassin fluvial. Je suis toujours resté dans cette mouvance-là. Jim Harrison a rencontré Kerouac quand il avait 20 ans dans un bar de jazz à New York. Bon, Gary Snyder est le personnage d'un roman de Kerouac. Il y a des liens comme ça. Jim Harrison était aussi très ami avec Peter Matthiessen, qui est décédé il y a quelques années aussi. À cause du zen, parce qu'ils étaient tous les deux praticiens du zen.
Bon, on va en parler, bien sûr.
On en parlera tout à l'heure. Mais aussi parce qu'il y avait une vraie fraternité. Il y avait un vrai partage d'écriture et de soucis de l'autre. Donc il y a un sens de l'amitié extrêmement fort chez Jim Harrison pour un ensemble de gens qui sont pas forcément des écrivains. Un de ses meilleurs amis était peintre, Russell Chatham, qui a fait toutes les couvertures des éditions américaines de ses livres. Et il avait comme amis à la fois des milliardaires, oui, et des pêcheurs qui étaient même pas au SMIC, qui étaient bien en dessous du SMIC, qui étaient plutôt proches du personnage de Chien Brun que du personnage de Bill Gates. Mais il avait comme ça une espèce d'éventail très très large, et où il accueillait, il savait parler à tous ces gens-là sans aucun problème.
En revanche, dès que je vous pose une question sur vous, vous me répondez par Jim Harrison.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
C'est normal.
C'était quoi la question?
La question, c'était justement la fréquentation, la longue fréquentation d'une langue.
Ça, je suis pas d'accord avec. C'était
avec Jacques Otet.
Non, Jacques Otet. C'était Jacques Otet, oui. Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que on connaît la voix. On reconnaît la voix. Mais pourquoi la traduirait-on moins bien au bout d'un moment?
On la traduit mieux au bout d'un moment?
Je sais pas si on la traduit mieux. En tout cas, on la reconnaît tout de suite. On la reconnaît tout de suite et on sent aussi les variations de l'auteur à travers cette voix. On est capable de la décrire. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de lassitude. C'est-à-dire, il faut pas que l'auteur se répète. Voilà.
C'était moins une question de lassitude, je crois pas que c'est dans ce sens-là qu'il le disait, hein,
ouais,
mais peut-être
de,
ou de confort, hein, peut-être, quelque chose d'un peu comme ça. Hein.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même surprise que la première fois. Mais moi, curieusement, la surprise que j'ai eue avec Jim Harrison, c'est pas une surprise c'est pas une surprise due à ma traduction. C'était la surprise de lire, alors au début des années 70, Légende d'automne. Pour moi, c'est un livre qui a été un choc. Un choc déclencheur. Et tout à l'heure, on parlait de Rick Bass, qui est un autre écrivain qui fait partie de la même galaxie, d'une certaine manière, hein, de la même confrérie, je sais pas.
De la galaxie de Snyder.
Comment
aussi.
Dire, oui. Rick Bass est venu à l'écriture à travers la lecture de Légende d'automne. Il le dit dans un livre que je suis en train de traduire. Bon. Et moi, le choc que j'ai eu, c'était cette espèce de grâce, d'une trajectoire gracieuse. J'avais aucune idée, au début des années 70, de qui était, à quoi ressemblait Jim Harrison. Je ne le savais pas. Et j'avais l'impression d'un être d'une grâce absolument extraordinaire dans la trajectoire qu'il arrivait à tracer dans chacune des trois novelles-là, que je trouvais absolument parfaite. Voilà. Bon.
Vous voulez dire qu'il n'avait pas le corps ou la silhouette de
son
écriture?
Oui, il n'avait pas la tête de l'emploi, comme on dit, vulgairement. Il ressemblait pas du tout physiquement à ce qu'il écrivait. Et j'ai appris à découvrir chez Jim Harrison à la fois la présence d'une chose et de son contraire. Par exemple, la vulgarité et la grâce. Le goût pour l'eau, la rivière, la fluidité et la volonté aussi de laisser une empreinte indélébile. Voilà.
Alors, il y a une autre voix, Brice Mathieusson, dans votre parcours de traducteur, qui précède la voix de Jim Harrison. Hein, j'imagine que vous voyez où je veux en venir, et cette voix, c'est celle-ci.
Lay down these words before your mind like rocks. Place solid my hands in choice of place set before the body of the mind in space and time. Solidity of bark, leaf or wall. Riprap of things, cobble of Milky Way, straying planets, these poems, people, lost ponies with dragging saddles, and rocky surefoot trails, the worlds like an endless four-dimensional game of Go, ants and pebbles, in the thin loam, each rock a word, a creek-washed stone, with torment of fire and weight, crystal and sediment linked hot, all change in thoughts as well as things.
La voix de Gary Snyder, on y arrive enfin, lisant 10 ans un extrait de Rip Rap, un recueil paru en 59. Gary Snyder, alors ça va être très ramassé, plein de raccourcis, né à San Francisco, grandi dans l'état de Washington, puis retour à San Francisco, aspirant poète dès le début des années 50, avec des premières publications dans la foulée, qui fut notamment alpiniste, bûcheron, guetteur d'incendie, aménageur de chemin, qui fréquenta donc Kerouac et Ginsberg, traduisit les textes bouddhistes anciens, puis la poésie chinoise, japonaise, goûta la vie dans les cabanes, le mouvement hippie, voyagea beaucoup et tout le temps, et puis fut enseignant en anglais, en poésie ethnique et nature writing, s'installera en Californie, dans la Sierra Nevada. J'avais bon espoir que vous soyez l'un ou l'autre passé chez lui, mais visiblement personne n'y a encore été, pour y construire un modèle de vie fondé notamment sur l'écologie profonde et le biorégionalisme. On va revenir à tout ça, dont il est le transmetteur infatigable, au même titre que la poésie, la culture amérindienne et le bouddhisme zen. Couvert de prix, lecteur, conférencier, figure tutélaire, qu'est-ce qu'il a incarne aux États-Unis, je dis bien aux États-Unis, parce qu'on en est loin ici, aujourd'hui à 88 ans, je dirais.
88 ans. 88 ans. Il aura 89 ans le 8 mai. Et il incarne,
Christophe,
je crois.
Pardon. Roncato, tout de suite.
Pour certains, il incarne la gauche radicale. Voilà. Pour d'autres, il incarne le biorégionalisme, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire un mouvement de la côte ouest américaine, mouvement écologiste, qui s'inscrit dans un retour vers ce qu'on a appelé dans les années 70 aux États-Unis le mouvement Back to the Land, donc une volonté de réhabiter les lieux, expression clé dans son œuvre et dans sa démarche. Pour d'autres, il incarne cette figure de la Beat Generation. Vous avez dit, qu'il était central dans le mouvement hippie, et j'aurais tendance à nuancer, et je crois que lui-même...
J'ai pas dit qu'il était central, hein. J'ai dit qu'il y avait... parce que je sais que c'est compliqué aussi ce passage-là de la Beat Generation.
Voilà, c'est-à-dire que quelque part il a cherché à se défaire de cette étiquette, même de beat, en fait, quelque part. Hein. C'est une étiquette qui lui a assez peu plu parce qu'elle est très, très rapidement récupérée par, justement, par le mouvement hippie. Hein, le mouvement hippie, c'est la version populaire, quelque part, de la Beat Generation. Et c'était gênant. C'était gênant pour Kerouac, très tôt, il l'a dit. C'était très gênant pour Gary Snyder, qui, quelque part, était un beat uniquement parce qu'il était ami, en fait, avec ses Ginsberg, Kerouac, etc. Lui, si on devait vraiment le resituer dans une tradition plus solide, je crois qu'il faudrait remonter à Thoreau, hein, comme vous l'avez dit, à John Muir, et donc à cette tradition environnementaliste, et ça ferait davantage sens.
Dans le recueil que vous traduisez, les deux premiers textes sont des textes qui font référence à la Beat Generation, qui sont d'ailleurs des textes parus en 60, des textes écrits en japonais, au moment où il vit au Japon, qui seront publiés par la suite en anglais. Et il écrit, en un sens, la Beat Generation peut être vue comme un énième avatar de l'impérissable troisième force qui s'est attachée à travers l'histoire à promouvoir l'esprit de communauté, l'amour et la liberté. On peut la relier aux communautés esséniennes de l'Antiquité tardive, au christianisme primitif, aux communautés gnostiques et aux hérésies du libre-esprit du Moyen-Âge, au soufisme, aux prémices du taoïsme chinois et au bouddhisme zen et chine. Les sculptures érotiques osées et mouvantes de Konark en Inde, la poésie de William Blake, les tableaux de Jérôme Bosch appartiennent tous à la même tradition. La devise d'un café beat de Los Angeles dit que « Art is love is God ». En Amérique, on trouve cela chez Walt Whitman, Thoreau, et chez nos maîtres de la génération précédente, William Carlos Williams, etc. etc., etc. Donc une réécriture en 1960 de l'ancrage de la Beat Generation.
Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, c'est très juste. Hein. Et encore une fois, il a été à San Francisco dans les années 52, 53, jusqu'à 56. Et il était proche de tous ces gens-là. L'idée, on l'entend là, dans ce passage que vous avez lu, c'est quelque part de fracturer un petit peu le cadre culturel dans lequel se situe l'Amérique des années 50. Et donc, c'est là-dessus que Snyder revient. C'est bien sûr une partie de sa vie de jeune homme. Mais il y a beaucoup plus.
On y vient beaucoup plus. Hein. Mais juste peut-être une dernière question sur ce qu'il apporte au fond à ce mouvement-là, parce qu'on a le sentiment, alors je ne sais pas ce qu'il en est aux États-Unis, ici évidemment on a très peu de traductions à notre disposition, donc je vous en remercie infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Pour autant, il est rarement associé, en tout cas ici, à la Sainte Trinité, Kerouac,
oui, tout à fait.
Ginsberg et Burroughs.
Alors, premièrement, à la marge, d'accord. Là où certains membres de la Beat Generation s'adonnent au voyage entre New York, San Francisco, le Mexique, s'adonnent aussi à la drogue et à l'alcool, Snyder a une vie beaucoup plus saine. Il est au Japon, dans un monastère bouddhiste zen, à Kyoto. Et ce n'est pas la drogue et l'alcool qui l'intéressent, mais davantage... une pratique méditative, une pratique du bouddhisme. L'idée pour lui, c'est de repenser les fondements de l'être. D'accord ? Qu'est-ce qu'un sujet ? Qu'est-ce qu'un objet ? De quoi est faite notre culture occidentale ? Comment est-ce qu'on a conceptualisé le sujet en Occident ? Etc., etc. À travers le bouddhisme, il entrevoit la possibilité de refondre le sujet. Donc là, on est dans un champ assez philosophique. Hein, un sujet qui serait... plutôt un sujet opposé à l'objet, un sujet qui toiserait son objet, mais au contraire, un sujet qui ferait corps avec l'objet. D'accord ? Donc il aime bien citer un poète et maître penseur du bouddhisme zen qui s'appelle Dogen, hein, du XIIIe siècle, Japon. Et Dogen disait, on étudie le moi pour oublier le moi, et lorsque l'on oublie le moi, on fait corps avec le grand tout. Et je crois que c'est vraiment la démarche dans laquelle s'est inscrite Gary Snyder, à savoir d'essayer, vous voyez, de repenser ce rapport à l'environnement, à la nature.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
dans la préface au poème, hein, d'après Ikkyu, parce que c'est aussi un lien qu'il peut y avoir avec Jim Harrison, en 96, Harrison évoque sa pratique du zen. Il écrit, hein, il dit étudier et pratiquer le zen avec un esprit de cupidité et d'autosatisfaction rapace, parce que, je cite, j'aime la vie et que ça me semblait la meilleure manière pour moi d'aller au cœur des choses. Mmh. Et il ajoute dans un autre texte, le zen est le véhicule de la réalité.
Mmh. Oui.
Brice Mathieu.
Ben, il était, il avait une attitude, enfin Jim Harrison avait une attitude très partagée par rapport au zen. Hein. C'est-à-dire que moi je l'ai jamais vu vraiment pratiquer. Il avait son petit coussin dans un coin de son bureau, mais le coussin était un peu poussiéreux. Hein. Bon, il pratiquait cette chose-là. Il avait le sentiment de la pratiquer. Hein. En tout cas, c'était ce qu'il disait. Pas seulement sur le zafu, là, le coussin, mais du lever de son lever jusqu'à son coucher, c'est-à-dire ça débordait entièrement de la simple séance de méditation à heure fixe, comme on fait son aérobic ou sa séance de fitness, pour se répandre dans une sorte d'attitude générale par rapport à la vie. Par exemple, c'est quelqu'un que je crois que c'est assez vrai ça. J'ai jamais entendu dire une banalité. C'était assez étonnant, c'est-à-dire il ne répondait jamais aux questions les plus banales par quelque chose qui était attendu, un lieu commun. Et il avait toujours une manière d'essayer, je pense que c'était pas pour surprendre son interlocuteur, mais c'était pour se surprendre lui-même.
Et donc, ne pas s'ennuyer
et en même temps rester éveillé. Ne pas s'engluer dans des phrases toutes faites, un discours, une espèce de langue de bois, mais au contraire, essayer à chaque fois de mettre le langage à l'épreuve, de façon à ce qu'il puisse le surprendre lui-même. Alors parfois, l'interlocuteur était très très décontenancé, évidemment. Bon. Et donc je pense que cette pratique du zen était à la fois très diffuse pour Jim Harrison, et qu'en même temps, elle irriguait tous les aspects de sa vie.
Dans ses articles, Snyder écrit « La bonne écriture est le langage sauvage ». Donc cette question du sauvage, dès lors qu'on parle de langage, de quoi parle-t-on ?
Quelque part, quand on écrit, il doit avoir une muse quelque part, hein, il doit quelque chose qui nous attire. Snyder, et ça le fait remonter quasiment en fait au romantique anglais, quoi, se dit finalement il faut qu'on trouve une écriture de la terre. C'est bien, en Occident, on a longuement écrit sur les grandes mythologies, qu'elles soient chrétiennes, grecques, romaines, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on pourrait faire émerger une écriture de la terre ? Et donc c'est pour ça qu'il s'intéresse à la wilderness, à cette nature sauvage, c'est parce que il cherche à en dire quelque chose, il cherche à raconter l'histoire de la terre, il cherche à... Donc on va le voir parler effectivement davantage de roches, de rivières, d'éléments naturels. Hein, de l'extrait qu'on a eu tout à l'heure qui s'appelle Riprap, c'est un extrait qui nous parle des pierres. Riprap, c'est l'enrochement. Et l'idée de Snyder, c'est d'écrire sur ces pierres. Et donc, encore une fois, de réintégrer les lieux dans la poésie et d'écrire une poésie qui ne soit pas hors sol, mais qui soit... quelque part du sol, quoi, si on peut dire.
C'est le même Brice Mathieu-Sain, le même sauvage que lorsque, je sais pas, Longfellow écrit « Il nous faut une littérature nationale hirsute et sauvage qui nous fasse trembler la terre comme le tonnerre d'un troupeau de bisons traversant les prairies
fameuses. » Voilà, c'est ça, oui. Mais je crois que pour Jim Harrison, le sauvage, c'était lié aussi à quelque chose qui le... Je donne juste un exemple de ça. Il disait en plaisantant, mais je crois qu'il l'a écrit quelque part, qu'il aimerait que devant la Maison Blanche, il y ait une manifestation avec des chiens et que les chiens jappent et hurlent devant le président des États-Unis. Donc que le non-humain, c'est-à-dire toutes ces espèces animales, mais en même temps végétales et peut-être minérales aussi, soient représentées au sein d'une structure démocratique qui inclut non seulement les humains, mais qui inclut aussi les baleines, les bisons, les chiens, toutes les formes animales, toutes les formes végétales, et de manière à ce qu'elles aient aussi leur mot à dire. Et je crois que c'est quelque chose qui est en train de surgir comme objet de réflexion pour pas mal de philosophes, cette réflexion sur le non-humain, sur le cette idée que, alors qui est sans doute due aussi à des problèmes gravissimes que rencontre la planète aujourd'hui, et qui fait qu'on ne peut pas continuer à vivre sans tenir compte de ce qui n'est pas humain. Donc ça remet en question tout le cadre de pensée, en particulier à partir des Lumières, où c'était l'humain. On parlait de Descartes tout à l'heure, mais Descartes, c'est celui quand même qui instaure la coupure entre l'humain et le non-humain, et qui considère que le non-humain est fait pour être exploité par l'humain. Donc que la nature est là pour être exploitée par l'humain. Donc, et il y a une espèce de revirement total qui est fait à travers des poètes, des écrivains, comme Gary Snyder, comme Jim Harrison, mais qui aujourd'hui aussi intéresse beaucoup les philosophes, qui réfléchissent de plus en plus à l'importance cruciale que a le non-humain, ne serait-ce que pour la survie de ce qui est humain.
Pour autant, la nature est toujours, chez Jim Harrison et chez Gary Snyder, la nature est quand même en relation avec l'homme. Hein.
C'est-à-dire que, bon, c'est un point de vue, une approche écologiste, et donc l'idée est de dire que il faut rompre avec une approche égocentrique et épouser une approche écocentrique. Et ça, c'est un tournant, comme Brice le dit, effectivement, quand on rentre dans cette phase de l'œuvre de Snyder, si on parle de Snyder, on est de plein pied dans les mouvements écologistes, avec bien sûr la question éthique qui se pose, et comme je disais tout à l'heure, cette volonté de repenser son rapport à la nature. Et là, juste pour aussi mettre les choses dans leur contexte, on voit bien la tradition américaine dans laquelle s'inscrit Snyder. Brice ou non, Manu, vous parliez tout à l'heure de. Il me semble que vous avez évoqué Emerson, qui dès les années 30 dit nous, on n'a pas une histoire comme l'Europe a une histoire. Par contre, on a une géographie. On a une géographie. Et il faut que de cette géographie émerge une littérature. Et donc, ça part de là, de cette réflexion-là. Une littérature, une peinture, bien sûr, et aussi une tradition de pensée. Et Snyder s'inscrit vraiment dans cette tradition-là. Et ce qui explique aussi l'émergence des mouvements écologistes qui passent très souvent par l'intermédiaire d'œuvres littéraires. Oui, ça, c'est une particularité de la culture américaine. C'est que, bien souvent... Vous avez un grand texte qui paraît, que ce soit Thoreau, Muir, ceux de Snyder, ceux de Leopold, et derrière vous avez, au niveau politique, au niveau législatif, des avancées.
Par rapport à l'éthique et à l'écologie, l'éthique d'ailleurs c'est assez étonnant de voir que ces articles sur la Beat Generation, il les range, il les classe dans la catégorie éthique et non pas esthétique. Hein.
Alors ça, très rapidement, je pense qu'il s'agit encore une fois de sortir de ce carcan dans lequel étaient les jeunes Américains des années 50. Donc, il faut fracturer un petit peu le cadre culturel, repenser les fondements d'une société. Bon, ce sont des grands mots, hein, mais je pense que c'est pour cette raison-là. C'est-à-dire que y a quand même une idéologie dominante aux États-Unis à la fin des années 40 et des années 50 qui ne plaît pas beaucoup à ces jeunes fous. Fougueux de la Beat Generation.
Il faut dire aussi que je pense que la révolution et la tradition américaine, c'est la révolution. C'est-à-dire qu'ils sont nés à partir de cette révolution contre le colon anglais et que cette révolution est quelque chose qui revient en permanence à l'intérieur des revendications des écrivains, des penseurs, des poètes, des musiciens. Et que ce que cherche la Beat Generation et puis les mouvements auxquels ils ont donné lieu, c'est-à-dire les hippies, etc. Bon, tout ça, ça s'ancre dans la tradition de la révolution américaine. Oui. C'est-à-dire, il faut remettre le monde à l'endroit de manière à pouvoir mieux vivre. Donc, sans le savoir, je pense que tous les écrivains de la Beat Generation et tous les hippies et tous les activistes qui ont suivi ce mouvement-là s'inscrivaient dans une grande tradition américaine qui était celle de remettons le monde à l'endroit. Qui était à l'origine des États-Unis.
Alors, remettre le monde à l'endroit et peut-être lui ajouter une dimension, peut-être juste un mot, Christophe Roncato-Tounsi, sur ce terme de profond ou de profondeur qu'il utilise, que Gary Snyder utilise en parlant de l'histoire et utilise en parlant de l'écologie. Il parle d'écologie profonde, il parle d'histoire profonde. Donc, il en déplace en tout cas les dimensions. C'est en particulier pour l'histoire profonde. Vraiment, il décale grandement l'histoire telle que nous on l'aperçoit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement dans ce terme, dans cette dimension-là, dans cette dimension de profondeur qui est une dimension métaphysique chez lui.
Oui, bien sûr. Alors, tout ça, c'est assez complexe, mais je crois que on peut rappeler son goût pour la préhistoire ou l'histoire profonde, pour l'anthropologie. Et ce petit détail qu'on peut, si on est attentif à ses poèmes, remarquer, où il date souvent ses poèmes, et au lieu de les dater, je sais pas, 1970, il met 40 000 ans, ou 4e millénaire. Oui. Et la volonté de Snyder, c'est de réinscrire l'histoire humaine dans un espace-temps beaucoup plus vaste. Oui, mais pourquoi s'en remettre au calendrier chrétien, juif, etc. Pourquoi ne pas remonter finalement à l'Homo sapiens, dit-il. Oui. Il y a moins 40 000 ans, puisque finalement l'Homo sapiens il y a de fortes similitudes entre l'Homo sapiens et nous-mêmes. Ainsi, on se retrouve avec une histoire qui agrandit, une histoire profonde, agrandie, etc. Donc ça, c'est pour la dimension historique, pour son intérêt pour ce qu'on appelle la préhistoire, ce qu'il appelle avec d'autres l'histoire profonde. Et puis, en ce qui concerne l'écologie profonde, c'est un mouvement, comme vous le savez, qui émerge dans les années 60, 70, avec ce penseur norvégien.
Mais c'est pas son terme à lui, hein, Gary Snyder, si je me suis mal exprimé. C'est pas de lui que vient l'écologie profonde.
Lui, mais bon, il s'inscrit tout à fait dans cette volonté de l'écologie profonde qui consiste à non pas à bidouiller en fait avec des lois pour protéger la nature, mais vraiment encore une fois en repensant son rapport au lieu et donc tout ça débouche sur le mouvement dont on parlait tout à l'heure qui s'appelle le biorégionalisme, qui est un mouvement assez spécifique à la côte ouest américaine et qui émerge voilà dans les années 70-80 et dont Snyder est un des porte-parole.
Je voudrais terminer juste sur la figure, parce qu'on pourrait presque dire ça, du coyote, qui est peut-être une autre chose que partagent Snyder et Jim Harrison. Je pense au poème de Snyder qui dit « Fourrure, couleur de boue, vieille crapule, au pas régulier, un vagabond, gloire au sale coyote, le gros chiot masturbateur, joueur impénitent, généreux en friandises. » Ça, c'est dans un festin de baie. Et je pense à Jim Harrison qui écrit juste avant la nuit, dans le poème s'appelle Coyote numéro 1. Juste avant la nuit, j'ai regardé un coyote chier sur un affleurement rocheux, le bassin baissé, pas de temps à perdre, pivotant comme une chouette pour inspecter les 6 directions, le ciel supérieur, la terre inférieure, les points cardinaux, en 2 demi-cercles, là, et il n'y a pas de distance, il connaît le rêveur qui rêve ses rêves. Qu'est-ce que cette figure-là, celle du coyote, leur permet à l'un comme à l'autre
hein. Jim Harrison, lui, il a écrit un livre qui s'appelle En marge, Off to the Side.
Donc, c'est un texte autobiographique.
Oui, qui est un livre de souvenirs, oui, autobiographique, mais qui montre bien cette position de on n'est pas tout à fait dedans, mais on prend une certaine distance pour regarder les choses. Et finalement, c'est la position de l'écrivain, mais c'est aussi une position de vie. C'est une position géographique, off to the side. C'est Jim Harrison n'a jamais vécu ni à Los Angeles ni à New York. Il a toujours détesté ces deux côtes, qui sont plutôt ce que nous en France on perçoit majoritairement de l'Amérique. Et il a toujours préféré être off to the side, en marge de cette chose-là. Donc rester ancré dans un paysage qui était le paysage de son enfance, le Michigan, là où il a grandi, et rester ancré aussi dans quelque chose. De proximité avec la nature, mais qui est aussi la proximité avec sa propre nature. C'est-à-dire, c'est pas simplement les coyotes, les affleurements rocheux, les nuages, mais c'est aussi être proche de quelque chose qui constitue peut-être son propre socle et qui est quelque chose qui est sauvage. Et là, je pense que dans cette idée de sauvagerie, enfin de wilderness, il y a aussi quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de l'individu même, et qui fait qu'il ne doit pas perdre de vue cette chose-là. Et pour être un coyote, il faut faire un avec cette chose-là. Sinon, on n'est pas un coyote, on est juste un col blanc qui va travailler dans une banque comme courtier à Wall Street ou dans le cinéma à Hollywood. Ce que Jim Harrison a fait, la deuxième chose, hein, pas la première. Il n'a jamais été courtier à Wall Street, mais il a travaillé dans les mines d'or de Hollywood. Et je crois que cette idée de sauvagerie, elle est aussi à l'intérieur de soi. C'est pas simplement une sauvagerie naturelle avec cette célèbre problématique géographique américaine entre le frontier et wilderness, c'est-à-dire les settled lands et le wilderness, avec la frontière qui est vraiment fondatrice quand même de quelque chose qui est uniquement, qui appartient uniquement à l'inconscient collectif américain. Mais c'est aussi une frontière qui se situe à l'intérieur de l'individu. Et que c'est quelque chose aussi qu'il devait partager, je pense, avec Gary Snyder, ainsi qu'avec Peter Matthiessen, avec pas mal d'autres amis. C'est cette conviction que, comme il le disait, « we are primates », nous sommes tous des primates. Malheureusement, nous avons tendance trop souvent à l'oublier. Et tout est fait plutôt, pour, en tout cas dans la culture américaine, pour nous le faire oublier.
C'est un anti-héros, ce Trickster. Et je crois que ces jeunes gens des 60, 70, effectivement, se sont identifiés à ce personnage qui est tout en nuances, qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui navigue un peu entre les deux, et qui n'est surtout pas une figure héroïque dont la culture américaine s'était beaucoup nourrie jusque-là, et dont la volonté, là s'exprime une volonté justement de rompre avec cette culture du héroïsme, du Grand Ouest, du cow-boy. John Wayne, et de rentrer donc, en tout cas de s'inscrire dans une autre tradition avec des influences amérindiennes, etc.
Brice Mathieu-Sang, Christophe Roncato, Tondi, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Et vous partez là ? Ah bon, d'accord. Au revoir, Manu.
Au revoir. Donc, Brice, Mathieu-Sang, je crois que ce qui finalement nous réunit, en plus de l'intérêt qu'on a pour ces deux œuvres, c'est le fait qu'on ait traduit Snyder
en premier.
Ouais. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voulez.
Moi, j'aurais bien continué à le traduire. J'aurais bien continué à traduire sa poésie, mais malheureusement, aucun éditeur, Pierre-Jean Oswald, qui était l'éditeur pour qui j'avais fait ça en 76, il a fait faillite juste après. Après, il a remonté d'autres boîtes, mais c'était d'autres projets éditoriaux. Et puis, je crois que j'en avais parlé, moi, à Christian Bourgois, mais Christian Bourgois m'a dit non.
D'accord.
Voilà. Alors que Christian Bourgois, c'était quand même l'éditeur de la Beat Generation. Il a quand même publié Grégory Corso, il a publié Ferlinghetti, il a publié, évidemment, Ginsberg, et tous les textes de Ginsberg. Ça, c'est moi, ça. Oui. J'arrête. Et malheureusement, ça s'est... Ça a capoté. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de
suite. Et l'idée est peut-être de continuer effectivement à traduire Snyder. Pourquoi aussi? Parce que je crois que Snyder, l'œuvre de Snyder trouve aujourd'hui une chambre d'écho manifeste. Toutes les problématiques qu'il soulève dès les années 60, qu'elles soient d'ordre culturel ou écologiste, sont on ne peut plus d'actualité. Ouais. Et lire Snyder aujourd'hui, c'est vraiment réaliser qu'il avait tout compris dès les années 60. Et donc, on a le projet effectivement, de continuer. Bien sûr, après, il faut trouver les financements et le lectorat. Et le lectorat.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Delphine Baudet pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à Brice Mathieu-Sang et Christophe Roncato-Tonsi. Vous trouverez toutes leurs actualités sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Antoine Beauchamp.